Vous écoutez RTL.
Florence Cohen. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble pour deux heures d'information. C'est une information RTL. Le parquet antiterroriste de Paris se saisit de l'enquête sur l'attentat de Berlin parce qu'il y a une Française parmi les blessés. En Allemagne, l'enquête est chaotique et pointe des failles de la police et du renseignement. Le terroriste présumé était connu comme un islamiste dangereux. Le point dans un instant. 100 000 euros pour aider à retrouver ce terroriste. Ce genre de prime est-il efficace? Ce sera la question de l'actualité à 18h15. Et tout de suite, le journal présenté par Céline Landreau. Bonsoir Céline.
Bonsoir.
Les autres titres.
Les militants de gauche n'oublient pas le 49-3 et le font savoir à Manuel Valls. L'ancien Premier ministre s'est fait enfariner cet après-midi lors d'un déplacement à Strasbourg. Les Français travaillent déjà 39 heures par semaine, résultat d'une étude du ministère du Travail. Les cadres dépassent même les 43 heures de travail hebdomadaire.
Et à 18h20, pour réagir, l'invité de RTL Soir sera le secrétaire général de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly.
Faire du vélo, oui, mais protéger. Les casques seront bientôt obligatoires pour les enfants de moins de 12 ans. Sans ça, ce sont les adultes qui vont casquer 135 euros d'amende. Alerte aux pénuries dans les pharmacies, les ruptures de stock sont de plus en plus importantes. Et puis les cadeaux de Noël à portée de toutes les bourses grâce aux associations qui misent sur la récup pour proposer des prix cassés. La bourse de Paris, elle termine à l'équilibre ce soir, plus 0,02% à 4834 points. Et enfin les courses à Cabourg, il fallait jouer le 8, le 10, le 7, le 15 et le 6.
Avant 18h30, les coulisses de Noël nous emmèneront dans la parade de Noël à Disneyland Paris. Après 18h30, ils jouent leur avenir en 2017. La chronique du service politique de RTL, ce soir Marine Le Pen. Le deuxième invité de RTL Soir est un immense chef étoilé. Alain Ducasse publie « Alain Ducasse chez vous » ou « Comment réaliser des plats de grands chefs à la maison ». 18h50, RTL Monde, direction le Japon, le Maroc et la Libye. 19h15, on refait le monde avec les polémistes. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Demain, le temps sera gris et humide.
Oui, gris et humide, au passage d'une perturbation qui donne encore de la pluie ce soir entre le nord-est, le massif central et les Pyrénées. Demain, on va retrouver beaucoup de grisailles après le passage de cette perturbation. Encore quelques pluies, mais elles seront très faibles, très localisées entre le massif central et les Pyrénées. Ce sera en revanche très ensoleillé toute la journée entre les Alpes, la Méditerranée et sur les Pyrénées, avec des températures comprises entre moins 1 et 10 degrés demain matin et entre 5 et 18 dans l'après-midi, des températures qui repartent à la hausse. Ce sera très doux pour le week-end de Noël.
On verra ça plus tard, tout à l'heure. Merci Patricia.
RTL Soir.
Trois jours donc après l'attentat sur le marché de Noël de Berlin, le parquet antiterroriste de Paris se saisit de l'enquête.
Saisie automatique car il y a une victime française. Olivier Bois, vous nous le révélez pour RTL. Une jeune femme a été blessée lors de l'attaque au camion Bélier lundi soir.
Oui, une jeune femme qui a une vingtaine d'années, qui travaille, qui vit à Berlin depuis longtemps. Elle était au marché de Noël lundi soir. Quand elle s'est retrouvée sur la trajectoire du camion, elle a réussi à se dégager, elle a été bousculée et donc c'est à ce moment-là qu'elle a été légèrement blessée. Elle est considérée aujourd'hui comme une victime, elle aussi, de cet attentat. Et c'est à ce titre que le parquet antiterroriste de Paris peut ouvrir une enquête. C'est le cas, en fait, à chaque fois qu'il y a une victime française à l'étranger. Une enquête miroir, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qui fait écho totalement à l'enquête allemande pour assassinat, tentative d'assassinat en vue d'une entreprise terroriste. Ce sont les policiers antiterroristes français de la SDAT au sein de la direction centrale de la police judiciaire qui sont chargés de coordonner cette enquête. Ils ont désormais en fait un cadre juridique clair pour travailler. C'est important évidemment dans le contexte où le terroriste est en fuite. L'avis de recherche européen, vous le savez, a été diffusé à toutes les polices, toutes les gendarmeries françaises. Il peut y avoir des témoignages qui remontent. Il peut y avoir également des informations qui émanent des services de renseignement. Tous ces policiers peuvent travailler maintenant plus facilement, plus efficacement, en collaborant bien sûr avec les policiers allemands qui restent dans cette enquête en première ligne.
Information RTL d'Olivier Bois. Angela Merkel s'est à nouveau exprimée cet après-midi. La chancelière allemande s'est dite très fière de la réaction calme du peuple allemand après cet attentat et alors que le principal suspect est toujours en fuite, comme vous le disiez Olivier. Bonsoir Blandine Milsan.
Bonsoir.
Blandine, vous êtes la correspondante de RTL en Allemagne. Ce ton, cette sérénité des autorités peut surprendre, car on a quand même l'impression qu'il y a eu de gros ratés dans cette enquête.
Oui, alors elle a quand même raison sur un point. C'est vrai que les Allemands ne sont pas du tout tombés dans l'hystérie collective. Et d'ailleurs, un sondage de l'Institut Forza dit que 80% d'entre eux estiment que ça ne va rien changer pour eux pour les fêtes de Noël. Mais effectivement, on peut douter aujourd'hui de l'efficacité professionnelle des enquêteurs allemands que la chancelière a loué cet après-midi. Ça commence par la découverte du portefeuille d'Anis Amri mardi matin, seulement sous le siège du conducteur du camion. Pourquoi si tard? Mystère, mais ça lui laisse le temps de disparaître. Ensuite, on apprend que le jeune Tunisien qui a été surveillé de mars à septembre, en fait, voulait organiser un braquage pour acheter des armes automatiques. Et malgré tout cela, la surveillance est suspendue en septembre, faute d'éléments probants. Et puis ensuite, il circule librement alors qu'il est classé dangereux et qu'il a eu des échanges avec deux djihadistes de Daesh. Donc tout cela, effectivement, Angela Merkel ne l'évoque pas cet après-midi. Elle, elle veut rassurer. Elle a laissé, en fait, le vice-président de la CDU dire ce matin sur toutes les radios télé à quel point, lui, il était choqué de ses manquements. Et il a même dit, ce n'est pas comme ça que l'on pourra garantir la sécurité du pays.
Blandine Milsang, merci beaucoup, correspondante de RTL en Allemagne. La résolution des Nations Unies avait été adoptée lundi. Une trentaine d'observateurs de l'ONU sont arrivés à Alep pour superviser la phase finale des opérations d'évacuation des rebelles et des civils. Des opérations qui pourraient se terminer demain, selon la Croix-Rouge. Le régime de Damas pourra alors proclamer la reconquête totale de la deuxième ville de Syrie. La plus grande victoire de Bachar al-Assad contre la rébellion depuis le début de la guerre en mars 2011.
RTL soir, 18h06.
Là, c'est l'une des images qui va marquer certainement la primaire à gauche, Manuel Valls enfariné.
L'ancien Premier ministre était à Strasbourg aujourd'hui. Un déplacement sur le marché de Noël avec pour thème la sécurité. Manuel Valls veut faire de la protection des Français sa priorité. Une déambulation sécuritaire donc pour un candidat pas si protégé que ça. Son message a été pollué par la farine d'un opposant, Olivier Bost.
Oui, c'est au moment où Manuel Valls rejoint des élus dans un grand café de Strasbourg qu'un jeune, au coin de la rue, que personne n'a vu, déverse un paquet de farine dans le dos du candidat au cri de 49-3, on n'oublie pas.
49-3, on n'oublie pas.
Manuel Valls ne se retourne pas. L'enfarineur, un intermittent du spectacle bien connu à Strasbourg, est interpellé. Il a été placé en garde à vue. L'enfariné, lui, Manuel Valls, après s'être débarbouillé, force son sourire et dédramatise.
C'était la farine sans gluten. Et donc, du coup, j'apprécie l'attention. C'est les joies de la campagne. N'en faites pas des tonnes, sinon vous aussi, vous risquez d'en recevoir. Il n'y a aucun problème. Les choses se passent très, très bien.
Les policiers en civil qui l'entourent sont quand même devenus beaucoup plus vigilants. Quelques selfies plus tard, sur le marché de Noël, lorsque l'on demande à ceux qui se prennent en photo avec l'ancien Premier ministre, est-ce que vous voterez pour Manuel Valls à la primaire?
Oh. Ah, ça, on verra.
Genre, on y répond jamais, comme
ouais,
ça.
Non, on verra.
On verra surtout si Manuel Valls arrive à se défaire du 49-3. Le boulet de sa campagne.
Un reportage RTL d'Olivier Bost à Strasbourg. Coupable, mais pas puni. L'issue du procès Lagarde n'a pas convaincu tout le monde.
La décision de la Cour de justice de la République est même incompréhensible pour plus de 150 000 internautes qui ont signé une pétition. Ils réclament un vrai procès pour l'ancienne ministre de l'Économie, reconnue coupable de négligence dans l'affaire de l'arbitrage Tapie, mais dispensée de peine. Dans leur viseur aussi, cette Cour de justice de la République qui doit être supprimée, selon eux, comme l'avait d'ailleurs promis François Hollande. À l'origine de cette pétition virale, un enseignant, Julien Christofoli, citoyen écœuré.
J'ai fait ça très vite, vous savez, enfin, le soir, comme ça, un peu par dépit. Comment se fait-il qu'alors qu'on nous apprend à l'école que nous sommes tous égaux en droit, et bien que certains aient une justice d'exception. Madame Lagarde doit être jugée comme une citoyenne ordinaire qu'elle est, mais en plus, pour que la chose ne recommence pas, la CJR doit être supprimée le plus rapidement possible. Elle n'aurait d'ailleurs jamais dû être créé. C'est impensable qu'on puisse continuer de fonctionner avec une justice de classe. Je ne souhaite pas qu'on gouverne par des pétitions. Par contre, ce que je souhaiterais, c'est que notre démocratie s'honore à faire que les gens qui sont élus répondent de leurs engagements. Si on veut que ça change, il faut un rapport de force pour qu'on soit enfin écouté.
Julien Christofoli, il est joint pour RTL par Elisabeth Fleury. Le retour à la semaine de 39 heures, serpent de mer du débat politique, mais déjà réalité pour les salariés français.
Ils travaillent en moyenne 39 heures et 6 minutes exactement actuellement selon les données du ministère du Travail et dépasse donc les 35 heures légales depuis 2002. Un décalage qui s'explique avec le recours aux heures supplémentaires et aux jours de congés supplémentaires. Chez les cadres, le temps de travail est encore plus long, plus de 43 heures par semaine l'an dernier. Des chiffres qui n'étonnent pas les premiers concernés, Patrick Hisson.
Oui, à l'image de cette Toulousaine, les cadres ne sont pas vraiment surpris par ce résultat.
Moi, j'ai l'impression de travailler largement les 39 heures, quoi. Voire parfois plus. J'ai 12 jours de RTT par an. Ça serait dommageable pour moi de revenir sur mes RTT, quoi.
39 heures par semaine, c'est également un minimum pour ce cadre manager dans l'informatique. Il travaille à l'international avec ce constat surprenant.
À l'étranger, où les gens pensent travailler beaucoup parce qu'ils ont un temps de présence dans l'entreprise important, mais dans les faits, n'ont pas une productivité bien supérieure, je pense, à celle des Français. Je travaillais avec des Américains, notamment, où les gens font des pauses toutes les heures pour pour manger, s'arrêtent, vont dehors, ont pas du tout le même rythme de travail, en tout cas dans mon domaine.
C'est la même analyse pour Virginie. En France, aujourd'hui, elle a débuté sa carrière de cadre en Allemagne.
Quand on est cadre en Allemagne, il est tout à fait normal d'avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle qui est respecté, avec une part de la vie privée qui est tout à fait importante. Pour avoir fait les deux, je peux vous dire que je travaille plus en France qu'en Allemagne, et avec une pression qui est différente.
De quoi balayer bien des idées reçues sur la productivité des Français.
Reportage à Toulouse de Patrick Hisson pour RTL. Aeronair a confirmé la commande de 100 avions au constructeur Airbus aujourd'hui, mais finalement pas d'A380. Le fleuron d'Airbus aurait été abandonné car l'aéroport de Téhéran n'est pas aménagé pour ce très gros porteur. La commande conclue représente tout de même quelques 20 milliards de dollars au prix catalogue. Nouvelle action des chauffeurs VTC demain matin, en conflit avec la plateforme américaine Uber sur leur rémunération notamment. Ils manifesteront aux abords des aéroports parisiens d'Orly et de Roissy dès 4h du matin avant de lancer une opération escargot jusqu'au siège d'Uber dans le 19e arrondissement de la capitale. Manifestation à la veille du réveillon de Noël. La circulation pourrait être très compliquée donc en Ile-de-France puisque Bison Futé avait déjà classé la journée orange dans le sens des départs.
RTL soir 18h11.
Et dans un instant, fini le vélo cheveux au vent pour les enfants.
18h12, RTL Soir, avec Florence Cohen et pour la suite du journal avec Céline Landreau.
Il était déjà obligatoire pour les deux roues motorisées. Le casque le sera aussi pour les vélos dès le printemps prochain.
Oui, en tout cas pour les enfants de moins de 12 ans et un casque attaché, précise le décret publié aujourd'hui au journal officiel. Sans cela, les adultes accompagnants devront s'acquitter d'une contravention de 4e classe, 135 €. Une nouvelle règle qui est déjà une habitude en fait pour de nombreux enfants, comme l'a constaté Arnaud Grange.
Sur leur vélo, Oscar, 11 ans, et Maya, 8 ans, pédale, casque sur la tête.
J'ai tout le temps mon casque. C'est au cas où, si on tombe, c'est mieux de l'avoir. Ça ne me gêne pas, mais moi, c'est une protection de plus. C'est au cas où.
Pour beaucoup de parents, le port du casque pour leur enfant est déjà une habitude.
On sort, c'est équipé. Ça ne va pas m'empêcher d'avoir un accident, mais en même temps, ça peut limiter. Et puis, je vous dis, c'est sécuritaire, sécurisé.
Ceux qui n'ont pas de casque vont donc devoir en acheter un, sinon l'amende s'élèvera à 135 €.
Je trouve que c'est un peu dur.
Malgré tout, cette obligation est une bonne chose pour ce papa.
Tant qu'on n'a pas la barrière de l'amende, on pense un peu à la légère. 12 ans, ça ne me choque pas du tout, parce qu'à cet âge-là, les enfants n'ont pas ces notions de vitesse, de sécurité, donc ça me semble pas illogique d'imposer un casque.
Mais de là à prévoir une amende, c'est excessif pour cet autre père de famille.
Chacun doit prendre ses responsabilités pour les siennes et puis la responsabilité pour ses enfants à cet âge-là, donc qu'ils soient réprimandés pour ça, ça me paraît toujours un peu excessif.
La mesure doit entrer en vigueur le 22 mars prochain.
Reportage à vélo d'Arnaud Grange pour RTL. Une pénurie préoccupante à présent, celle des médicaments trop souvent introuvables en pharmacie.
C'est l'ordre des pharmaciens qui s'alarme. En moins de 2 ans, 200 000 déclarations de rupture ont été recensées. C'est 10 fois plus qu'il y a 5 ans. Parmi les plus touchés, les vaccins ou les produits dermatologiques. Une galère au quotidien dans les officines. Vous l'avez vérifié à Paris, Odile Pouget.
En deux matins, deux le soir.
Oui, un phénomène qui inquiète beaucoup François. Ce pharmacien y est confronté au quotidien. Des ruptures qui, selon lui, touchent pratiquement toutes les classes de médicaments.
Les antidépresseurs, les antihypertenseurs, les anti-inflammatoires. On parle beaucoup des vaccins pour les enfants et on n'a pas de date de retour. Ça peut être des mois. Il y a des produits qui sont manquants depuis 6 mois, 8 mois. Ça devient très compliqué.
Des mois d'attente parfois, alors qu'un médicament s'obtient généralement en 3 heures. Pour le pharmacien, c'est avant tout un problème économique.
Comme les labos peuvent vendre plus cher leurs médicaments à l'étranger, ils ne s'en privent pas. Ils respectent les quotas en France, mais dès qu'ils sont hors quota, ils n'ont pas d'obligation après à nous fournir, nous, sur le marché français. Ça bloque à ce niveau-là.
Ça bloque, dit le pharmacien, qui, à cause de ces ruptures, passe des heures à contacter les fournisseurs, téléphoner au laboratoire, rappeler les médecins pour proposer aux patients un autre traitement. Un boulot, confie-t-il, très chronophage.
Merci Odile Pouget pour RTL. À 48 heures du réveillon de Noël, tous les cadeaux ne sont pas encore achetés. Alors, bonne nouvelle pour les retardataires, il est possible de se faire plaisir sans se ruiner.
De se faire plaisir aussi hein, si vous voulez. D'ailleurs, Florence, il n'y a pas de mal à ça.
Merci.
La solution donc des cadeaux solidaires, comme en propose l'association Ressourcerie à Darnétal, près de Rouen. Elle collecte en fait toute l'année des meubles, des objets ou des jouets qu'elle répare, relouque et revend ensuite à petit prix. De quoi faire des heureux à l'approche des fêtes, Frédéric Veil.
Des jouets à 1 ou 2 euros, des bibelots, des meubles, de la vaisselle, la ressourcerie de Darnétal fait le plein depuis plus d'une semaine. Sophie Courtois est la responsable de l'association.
C'est des objets qu'on collecte en déchetterie, on collecte à domicile. Et comme les gisements sont énormes, que les gens jettent énormément, qu'on a consommé ces 30 dernières années, comme c'est absolument incroyable. Donc du coup, nous, on fait cette opération des stockages avec des prix défiant toute concurrence pour que ça plaise à tout le monde et à toutes les bourses.
C'est le cas d'Aline, venue avec ses deux enfants. Elle repart avec un grand sac de jouets.
J'étais venue pour un meuble, en fait, mais du coup, on a été un peu dans le fond de la boutique et les enfants ont trouvé quelque chose. Donc, vu que c'est proche de Noël, autant leur faire plaisir aussi.
Quant à Julien, il repart avec
des valises et plein de jouets qui sont dans les valises, en fait. Il y a de tout. En plus, là, pour le coup, c'est 50% cette semaine, donc c'est déjà très abordable. Et en plus, avec les 50%, c'est encore plus abordable.
La ressourcerie de Darnétal près de Rouen sera ouverte jusqu'au 24 décembre inclus. Il existe 137 boutiques de ce type en France à proposer des cadeaux à petit prix.
Un reportage de Frédéric Veil pour RTL. En football, le capitaine du PSG, Thiago Silva, prolonge son contrat jusqu'en 2020. Le défenseur devrait donc continuer à porter encore un moment le brassard qu'il a déjà enfilé à 165 reprises. Prolongation aussi pour le gardien des Bleus, Hugo Lloris, désormais sous contrat avec le club anglais de Tottenham jusqu'en 2022. Et puis, à l'arrivée de la saison du Mercato, cette information du quotidien L'Équipe, le club allemand de Wolfsburg aurait donné son accord au Paris Saint-Germain pour un transfert de Julian Draxler cet hiver. Transfert contre 36 millions d'euros.
À suivre, merci beaucoup. C'était le journal de Céline Landreau. On vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres. Et tout de suite, la question pour comprendre l'actualité. 100 000 euros pour qui permettra de retrouver Anis Amri, le tueur présumé du marché de Noël de Berlin. Ça ressemble au Wanted américain, où là c'est institutionnel. Bonsoir Cindy Hubert.
Bonsoir.
C'est vrai que ce système de primes n'est pas très courant en Europe. Elles s'échelonnent comment ces primes à travers le monde?
Eh bien l'homme le plus recherché de la planète, c'est bien sûr Abu Bakr el-Baghdadi, le chef de l'État islamique. 25 millions de dollars pour sa tête. Les États-Unis sont prêts à payer pour toute information qui permettrait de l'arrêter. C'était le même prix pour Ben Laden. Aujourd'hui, on est très loin du Far West. Ce système de récompense est tout à fait officiel, géré par le gouvernement américain. Il y a d'abord une liste des terroristes les plus dangereux. Là, les primes commencent à 1 million de dollars. Et une autre liste qui vise les criminels. Là, les récompenses sont un peu plus modestes, souvent autour de 100 000 euros. Chez nous, en Europe, il y a un peu moins de travail pour les chasseurs de primes. Seulement 3 meurtriers valent de l'argent, quelques milliers d'euros.
Bon, et alors, est-ce que c'est efficace maintenant?
Alors oui, c'est en tout cas ce que disent les pionniers de ce système. Les Américains, plus de 150 fugitifs arrêtés en un demi-siècle. Mais cela demande beaucoup de travail. Il faut évaluer la pertinence de chaque information, de chaque personne qui appelle. Le risque, c'est évidemment d'être noyé dans les renseignements. C'est ce qui a fait hésiter la Belgique. Le parquet fédéral nous l'a confirmé. Les Belges ont réfléchi à mettre une récompense sur la tête de Salah Abdeslam, mais aucune loi chez eux ne permettait de le faire. Chez nous, en France, le cadre légal existe depuis 1995. Mais jusqu'à présent, cette loi permet seulement de rémunérer les indics, très loin des affaires de terrorisme.
Merci Cindy Hubert.
RTL Soir, 18h18.
Dans un instant, l'invité de RTL Soir, Jean-Claude Mailly de Force Ouvrière, sur ce temps de travail qui dépasse parfois allègrement les 35 heures par semaine.
RTL. Ça veut dire quoi Noël pour Darty ? Noël, c'est offrir le meilleur de la technologie. C'est emballer un concentré d'innovation dans un beau papier cadeau. En fait, Noël, c'est être en avance sur son temps.
Jusqu'au 25 décembre chez Darty, le PC tactile Asus R540 avec Office 365 personnel est à 500 euros au lieu de 618. Et grâce au Click and Collect, commandez-le sur darty.com et retirez-le une heure après en magasin.
Retrait en une heure sous réserve de stock dans le magasin choisi.
Foie gras demain foie gras. Ah Daniel, c'est quoi tous ces pense-bêtes collés partout là
Eh ben je veux pas rater ça. Chez U, demain et demain seulement, le délicieux foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest Lescaz est à 8,99€ le bloc de 180 grammes. 8,99€. Tiens, je note encore et paf.
Ah bah non, pas sur mon front.
Vous seriez fichu d'oublier, tête de linotte.
Origine France, soit 49,94€ le kilo dans les magasins U participants. Liste sur magasin-u.com.
Les nouveaux commerçants.
Pour votre santé, bougez plus.
RTL Soir 18h20, Florence Cohen.
C'est déjà l'un des grands débats de la campagne présidentielle, celui sur le temps de travail. Et les derniers chiffres du ministère du Travail viennent nous éclairer un peu. Bonsoir Jean-Claude Mailly.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général du syndicat Force Ouvrière. Alors, premier chiffre, les salariés à temps complet travaillent en moyenne 39 heures par semaine. Je rappelle que la durée légale est évidemment 35 heures. Comment ça vous fait réagir ?
Bah écoutez, je ne suis pas surpris de ce chiffre. C'est ce qu'on explique depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle la durée effective du travail. C'est une moyenne, bien entendu. Faut savoir que si on prend la médiane, ça veut dire s'il y a 50% des travailleurs, il y a des salariés, plus de 40% des cadres dirigeants des agriculteurs travaillent plus de 42 heures par semaine, par exemple. Donc, je ne suis pas surpris par ce genre de chiffre. Et là, ça ne concerne que les travailleurs à temps complet. Ça relativise beaucoup de choses qu'on entend, y compris pendant la campagne électorale. Je rappelle tout simplement que quand les gens travaillent 39 heures, ou ils ont des jours de RTT s'ils sont au forfait, par exemple, ou alors ils ont des heures supplémentaires. Donc quand on veut remettre en cause la durée légale du travail, c'est bien souvent qu'on veut remettre en cause le paiement des heures supplémentaires.
Oui, mais Jean-Claude Mailly, si on affine un petit peu le calcul, qu'on annualise ce chiffre de 39 heures par semaine, qu'on retire tous les jours de congé sous toutes les formes que ce soit, on arrive finalement à une moyenne hebdo de 35 heures. Donc on la dépasse pas tant que ça, cette durée légale.
Non, attendez, ça dépend. Vous savez, les statistiques, elles sont diverses et variées. Si vous prenez les statistiques de l'OCDE, qui sont peut-être parmi les plus fines dans ce sens où elles tiennent compte de la durée annuelle du travail, elles intègrent les heures supplémentaires, elles intègrent les congés payés, voire les jours de grève. La France se situe à 1485 heures par an. 100 heures de plus que l'Allemagne. Vous voyez, on travaille plus en France qu'en Allemagne. Donc ça dépend comment on calcule les choses. Et si on intègre non seulement les salariés à temps complet, qu'on intègre aussi les salariés à temps partiel. Alors là, on a une durée moyenne du travail en France qui est supérieure à d'autres pays. C'est 37,5 en France et par exemple, c'est 30 heures aux Pays-Bas. Donc il faut tout intégrer. Et souvent, on ne retient qu'un seul chiffre. Ça montre bien en tout cas que les 35 heures ne sont pas en soi un problème, que ça n'empêche pas de travailler plus quand c'est nécessaire. Seulement, il faut payer des heures supplémentaires dans ce cas-là. Et ça montre bien que ceux qui mettent en cause la durée légale du travail, où qu'il soit d'ailleurs, parce que ça n'est pas que M. Fillon qui parle de ça, il y en a d'autres, je pense à M. Macron par exemple, ils sont dans l'idéologie plus que dans le réel.
Qu'est-ce que vous dites alors au final ? On s'est fait enfumer sur les 35 heures, voilà ce que vous dites ?
Non, les 35 heures, vous savez, à l'époque, les salariés se les ont payées d'une certaine manière, à la fois pendant plusieurs années de modération salariale, par la mise en œuvre de mesures de flexibilité via l'annualisation du temps de travail qui permet là aussi de payer moins d'heures supplémentaires, des modifications dans l'organisation du travail. Je crois que rouvrir le dossier de la durée légale du travail aujourd'hui, c'est rouvrir une boîte de Pandore. Et quand vous discutez avec les salariés, qu'ils soient cadres ou non, quand vous discutez avec les DRH dans les entreprises importantes, aucun ne veut rouvrir ce dossier. Donc je pense que ce n'est pas un dossier prioritaire, loin s'en faut. Il y a d'autres points beaucoup plus importants qui devraient être abordés dans cette campagne présidentielle. Je pense au pouvoir d'achat, je pense à la construction européenne ou aux services publics, par exemple.
Donc, dans votre esprit, Jean-Claude Mailly, on ne touche pas cette durée du temps de travail. En revanche, on paye les heures supplémentaires, vous l'avez déjà dit, on les paye plus, on les défiscalise, on les redéfiscalise.
Moi, j'ai indiqué il y a un petit moment que ça mérite de rouvrir le débat de la défiscalisation des heures supplémentaires. Parce que quand ça a été supprimé, moi, dans les nombreux déplacements que je fais, beaucoup de salariés m'ont dit on a perdu 30, 50, 100 euros par mois du fait de la refiscalisation des heures supplémentaires. Donc, c'est un débat qui mérite d'être ouvert parce que ça donne du pouvoir d'achat. Et ce n'est pas parce qu'on refiscalise que l'entreprise embauchera. Donc, ça peut générer du travail non payé. Ça, c'est possible. Mais donc, c'est un débat qui mérite d'être ouvert en tous les cas.
Ça aussi, c'est à mettre au débit de François Hollande ?
Écoutez, nous-mêmes n'étions pas favorables au départ. Donc tout le monde peut évoluer en tenant compte du réel. Moi-même, je tiens compte du réel dans ce type de situation. En tous les cas, quand il y a un problème clé aujourd'hui, vous savez, quand je discute avec les salariés, franchement, aujourd'hui, ils ne me parlent pas encore de la campagne présidentielle. Ils ne parlent plus des problèmes d'emploi, des problèmes de pouvoir d'achat, de désertification des services publics s'ils sont dans une zone rurale. Et un des moyens, c'est seul, un des moyens d'améliorer le pouvoir d'achat, c'est cette question des heures supplémentaires, bien entendu.
Vous avez prononcé le nom tout à l'heure de François Fillon, il veut laisser les entreprises libres jusqu'à la limite de la réglementation, 48 heures hebdomadaires, ça doit vous révulser.
Oui, non mais écoutez, je ne pense pas que ce soit très sérieux, c'est une déréglementation complète. D'ailleurs, au passage, le gouvernement actuel ne devait pas ouvrir la porte sur la déréglementation en matière de temps de travail. Là, on voit que d'autres l'ouvrent complètement. 48 heures, c'est le maximum. C'est ce qu'autorise au maximum l'Europe. Hein. Donc non, ça signifie qu'on renvoie tout au niveau de l'entreprise. On ne sait pas d'ailleurs avec qui on négocie, parce que parallèlement, ils remontent les seuils de 10 à 50 pour les délégués du personnel et de 50 à 100 pour les comités d'entreprise. Donc je pense que ça fait partie des vieilles lunes qu'on nous ressort régulièrement et qui ne changeront rien fondamentalement au problème, si ce n'est de dégrader les conditions de vie et de travail des salariés.
Qui est le candidat le plus fiable, à votre avis, sur ce sujet?
Je ne me prononcerai pas sur qui est plus fiable ou moins fiable. Vous savez que Force ouvrière ne donnera aucune consigne de vote pour les élections présidentielles, qu'il s'agisse du premier ou du deuxième tour. Maintenant, sur certaines annonces, par les uns ou par les autres, quand elles nous choquent, je ne veux pas qu'on puisse croire qu'on pourrait être d'accord. Donc on prévient en disant, attention, là, si vous faites ça, il y aura un problème.
On sait que vous saurez vous manifester, c'est le cas de le dire, si ça ne va pas. Merci beaucoup, merci Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, d'avoir été l'invité de RTL Soir.
18h26.
Et dans un instant, les coulisses de Noël, direction Disneyland Paris.
RTL Soir, 18h27.
Et dans les coulisses de Noël, on visite ce soir l'envers du décor de Disneyland Paris. Bonsoir Jacques Serey.
Bonsoir.
Chaque année, des milliers de visiteurs viennent passer les fêtes de fin d'année chez Mickey. Et deux fois par jour, de novembre à janvier, se produit dans les allées du parc d'attractions un défilé que les enfants ne rateraient pour rien au monde. La célébrissime parade de Noël. Un rendez-vous qui se prépare bien en amont pour que le résultat soit irréprochable.
Oui, c'est dans un petit bâtiment de pierre blanche situé à l'écart du parc, à l'abri des regards des visiteurs, que se prépare le show. À l'intérieur, sur le parquet reluisant, 6 performeurs, des danseurs se positionnent face au mur miroir. Pas de costume, mais déjà sur leur visage, une épaisse couche de maquillage.
Alors là, tout le monde est en préparation. On va faire les mises en place de chaque partie.
Solène Le Hérite est la capitaine de la parade. Elle ne danse pas, mais elle joue un rôle essentiel.
De tout vérifier, de voir qu'ils respectent bien les chorégraphies qu'on leur a apprises, qu'ils fassent bien attention à leur place, à leur énergie, à leur sourire, à leur playback. Et beaucoup de choses à regarder.
Alors, une heure avant la sortie des artistes, c'est parti pour une ultime répétition.
Disney's Christmas Parade!
Les pas sont assurés, chaque danseur connaît la chorégraphie par cœur. Juste à côté de l'enceinte de la salle, un homme, bras croisés, le regard vif, scrute les mouvements des performeurs. Il s'agit de Juan Fuentes, le metteur en scène. C'est lui qui a conçu cette parade de Noël.
Pour créer cette parade, c'est un an et demi avant. Après, c'est un mois et demi de répétition, des jours et des nuits.
Mais le temps presse. Direction les loges, il est l'heure d'aller enfiler les costumes des Factory Boys, ces petits lutins qui travaillent à l'usine à jouets du Père Noël.
Alors Jacques, la parade de Noël Disney, ce sont près de 100 participants de différentes nationalités répartis autour de 7 chars. Vous avez retrouvé tout le monde dehors, juste avant l'entrée des danseurs dans le parc d'attractions.
Oui, en compagnie de Jacques Arnaud Miral, costumes vert, jaune et rouge de lutin. Nous remontons ce que tout le monde appelle ici la route de service. Ce chemin goudronné mène à un grand portail vert foncé. Derrière, à travers de petites fentes, le public semble impatient. Mais pas de quoi perturber notre danseur, tout sourire, déjà très concentré.
Plein d'énergie, de positivité, de bonnes ondes. Voilà, sourire, sourire, sourire.
Et Solène Le Hérite veille au bon placement de chacun. Nous sommes à 2 minutes de l'ouverture des portes. Tout le monde est prêt?
Oui, tout le monde est prêt. Le char arrive, les chars se mettent en place et on a tous les performeurs qui montent en même temps que leur char sur la route de service.
Les chars de toutes les couleurs sont positionnés en tête de file. Mickey donne le rythme effréné de la danse. Midi 15, le portail s'ouvre enfin.
Allez, bon courage.
Sous les yeux du metteur en scène, Juan Fuentes.
C'est un bébé de longue date et puis quand on le voit accompli jusqu'à la fin, et ben, on est heureux. Surtout quand on voit les étoiles qui brillent dans les yeux des enfants, là on s'est dit c'est gagné.
Mission accomplie, c'est parti pour 1 km de parade de Fantasyland à Main Street, les principales artères de Disneyland Paris.
Et les coulisses de Noël étaient signées Jacques Serey pour RTL.
Il est 18h30. 18h30. Florence Cohen.
Le rappel des titres, Céline Landreau.
Le parquet antiterroriste de Paris se saisit de l'enquête trois jours après l'attentat sur le marché de Noël de Berlin. RTL vous le révélait, il y a en effet une victime française, une jeune femme légèrement blessée. Le principal suspect, Anis Amri, est lui toujours en fuite. Ses empreintes ont été retrouvées dans la cabine du camion Bélier. Manuel Valls chahuté à Strasbourg. L'ancien Premier ministre s'est fait enfariner par un militant qui n'oublie pas le 49-3. François Hollande lui tacle François Fillon en déplacement à Chambéry. Le président a déclaré qu'il n'y a pas un hôpital qui fonctionne sans personnel, ça n'existe pas. Allusion à peine voilée à la proposition du candidat de la droite qui souhaite supprimer 500 000 emplois publics. Le casque bientôt obligatoire pour les enfants à vélo à partir du 22 mars. Tous les enfants de moins de 12 ans devront le porter à bicyclette. Sans cela, les adultes qui les accompagnent risqueront une amende de 135 euros. Les pharmaciens s'alarment des pénuries de vaccins et de médicaments. Les ruptures sont 10 fois plus importantes qu'il y a 5 ans. Et puis la compagnie aérienne Ryanair confirme la commande de 100 avions Airbus, mais ne prendra finalement pas d'A380. L'aéroport de Téhéran n'est pas aménagé pour accueillir le très gros porteur. Le temps, Patricia Charbonnier, gris et humide encore demain.
Oui, le temps restera très nuageux à couvert sur la plupart des régions, avec encore quelques pluies, mais faibles et localisées entre le sud-ouest et le massif central. Et puis une nouvelle dégradation pluvieuse abordera la pointe bretonne dans l'après-midi. Du côté de la Méditerranée, du côté des Pyrénées, là ce sera une très très belle journée ensoleillée, avec des températures comprises entre moins 1 et 10 degrés le matin et 5 à 18 dans l'après-midi.
Merci Patricia. À tout à l'heure pour Météoscope. Et Céline, vous revenez demain.
Avec plaisir.
Ils jouent leur avenir en 2017. La chronique du service politique de RTL. Bonsoir Julien Fautra.
Bonsoir.
Vous allez suivre l'année prochaine la campagne de Marine Le Pen pour RTL. Dans quelle situation est-elle aujourd'hui, la candidate du Front National ?
Eh bien, elle trépigne, Marine Le Pen. Elle nous l'a dit plusieurs fois, elle a des fourmis dans les jambes. Mais la primaire, celle de la droite d'abord, celle de la gauche aujourd'hui, la paralyse. Ce n'est donc que début février qu'elle va entrer dans le dur. Il restera peu de temps. Nous sommes contraints de faire une campagne courte, admet un proche de la patronne. Ça va durer 2 mois. Rendez-vous pour le premier meeting à Lyon, le 5 février. Pour autant, Marine Le Pen ne reste pas inerte. C'est pas exactement son genre. Pendant que ses concurrents s'échauffent dans le cadre de la primaire, elle se prépare à cette campagne éclair, 12 semaines, pas plus, et c'est sur ce temps court qu'elle va jouer l'année la plus décisive de sa carrière politique.
Alors, quels sont ses espoirs pour 2017 ?
Eh bien, ils sont immenses, rien d'autre que l'emporter. Ça paraît évident aujourd'hui, sauf que ça ne l'a pas toujours été. La candidate a évolué ces dernières semaines, parce que la réalité, c'est qu'au Front National, il y avait des doutes, il y avait des sceptiques. D'ailleurs, les sondages, même s'ils ont été très hauts, ne donnaient jamais la victoire finale à portée de main. Or, les derniers tremblements de terre politiques, le Brexit, Donald Trump, le non-référendum italien ont clairement modifié la donne. Oui, ce sont des signes qui nous donnent de l'espoir, me confie un proche de Marine Le Pen. La presse internationale a d'ailleurs longuement enquêté sur le phénomène Marine Le Pen et sachez qu'après Trump, c'est donc vers la France que les yeux de l'Europe sont tournés.
Oui, et d'ailleurs justement, est-ce que sa stratégie a changé après la victoire de Donald Trump ?
Oui, notamment dans la manière de faire campagne. En marge des grands meetings, il y en aura une dizaine, Marine Le Pen va se rendre dans beaucoup de petites villes. Elle en prépare aussi dans des fermes, devant des usines. Partout, me dit-on au parti, partout où il y a des traces d'une mondialisation malheureuse. Poutine à l'Est, Trump à l'Ouest, Marine Le Pen rêve de constituer le trio.
Ça signifie que dans l'esprit de Marine Le Pen, le premier tour de la présidentielle est déjà gagné, forcément ?
Oui, à telle enseigne que dans le camp de Marine Le Pen, on prépare même déjà les arguments de l'entre-deux tours de la présidentielle, surtout face à un front républicain auquel elle s'attend. Un cadre du FN me confie, Marine Le Pen va s'attacher à prévenir les Français qu'il y aura de l'hystérie dans l'entre-deux tours, peut-être même des manifestations. Il sera donc difficile de faire campagne, alors on essaiera, me dit-il, de transformer ce deuxième tour en campagne référendaire, en référendum pour ou contre le système. Et c'est une stratégie que le parti va mettre en place dès le début de l'année.
Oui, mais encore faut-il transformer l'essai, Julien. La victoire finale, ça reste une difficulté majeure pour Marine Le Pen.
Oui, elle en a conscience d'ailleurs. C'est toute la question du report de voix. Comment progresser entre le premier et le second tour ? Par exemple, lorsque Marine Le Pen s'est présentée au régional dans les Hauts-de-France, son score était de 40% au premier tour, 42 au second. D'abord nettement en tête, puis nettement battu. Ça va être un enjeu pour la candidate en 2017, ratisser le plus large possible.
Oui, mais il y a un cas que vous n'évoquez convoquez pas, et elle non plus, a fortiori, et si Marine Le Pen est éliminée dès le premier tour?
Alors là, ce serait clairement un échec. Pendant des mois et des mois, la candidate a flirté avec les 30% d'intention de vote, la qualifiant systématiquement pour ce second tour. Elle devrait alors se poser plusieurs questions. Est-ce qu'elle arrête la politique? Très peu probable, me dit un proche de la candidate, d'autant qu'il y a les législatives quelques semaines plus tard et Marine Le Pen pourrait devenir candidate. Est-ce qu'elle se prépare pour 2022? Oui, incontestablement, me dit-on aussi. Est-ce qu'elle remet sa présidence en jeu? Difficile à croire, mais il devrait y avoir un congrès et les petites frictions entre Marion Maréchal Le Pen et sa tante prendront alors une toute autre dimension.
Merci beaucoup, analyse de Julien Fautra du service politique de RTL.
RTL Soir, 18h35.
À suivre, le deuxième invité de RTL Soir, Alain Ducasse, chef étoilé, s'il en est, qui publie un livre pour vous qui aimez faire la cuisine à la maison, pour faire des petits plats de grand chef pas si difficiles que ça. Tout de suite.
18h37, c'est la suite de RTL Soir avec votre deuxième invité, Florence Cohen.
Deuxième invité de RTL Soir, Alain Ducasse, bonsoir.
Bonsoir.
Bon, je ne sais pas encore s'il est besoin de vous présenter. Vous êtes l'un des plus grands chefs étoilés de France avec vos restaurants à l'hôtel Plaza Athénée à Paris, le Louis XV à l'hôtel de Paris à Monaco, Dorchester à Londres. Alors, vous allez nous donner des idées de plats pour les fêtes, on compte sur vous. Mais si on vous reçoit, c'est aussi pour ce livre intitulé Ducasse chez vous, aux éditions Alain Ducasse. Ce sont 25 recettes. Comment on définit ça? Comment faire des plats de grand chef chez soi dans sa cuisine?
Parce qu'on raconte tout, on les a légèrement simplifiés. On a fait des photos du pas à pas. C'est rigoureuse sélection des produits, ouais. Parfaite préparation, juste assaisonnement, juste garniture, parfaite réduction, harmonie des mets et des vins. Il n'est pas nécessaire de ne jamais avoir fait la cuisine pour s'attaquer ce livre. Il faut avoir quand même une petite idée de savoir découper, cuire, assaisonner. Le livre ne va pas vous donner accès immédiatement, dans la minute, dans la seconde, pour faire un fabuleux repas pour vos amis. Il faut avoir une toute petite idée de ce qu'est la cuisine.
C'est ça, c'est la très nette impression qu'on a en lisant le bouquin qui, au demeurant, est magnifique. Il y a les photos sont somptueuses, les recettes sont très détaillées, donc ça donne vraiment envie de faire.
C'est simple, efficace et pas cher.
Voilà, ouais. On a un peu l'impression quand même que c'est assez long et compliqué. Vous le dites vous-même, par exemple, le crabe rémoulade au Granny Smith et caviar, déjà rien que le menu, il y a 11 étapes à faire. Qui peut faire ça?
Ah, mais ça, c'est une recette simple parce qu'on découpe, on détaille tout. Donc là, c'est assez facile. Il faut surtout trouver le bon crabe, le bon caviar au bon prix, parce que le caviar aujourd'hui n'est plus, même s'il reste cher, n'est plus le produit de luxe que l'on connaissait il y a une dizaine d'années, puisqu'aujourd'hui, le caviar est automatiquement d'élevage, puisque le caviar sauvage a été interdit. Et cela est bien, puisque les esturgeons de la mer Caspienne sont en train de se renouveler et le prochain caviar sauvage, c'est encore dans quelques années. C'est du très beau caviar d'élevage, qu'il soit français ou chinois ou italien. Voilà, donc c'est bien découpé, mais ce n'est pas la recette la plus sophistiquée.
Alors d'accord.
On a fait du cachez-vous, ce sont des recettes accessibles et je dirais faciles à faire. Toutefois, il faut avoir fait un peu la cuisine. Si vous prenez un couteau pour la première fois, c'est pas le bon jour.
Alors, il y a quelque chose qui est remarquable au sens strict du terme dans ce livre, c'est que pour chaque recette, la liste des ingrédients est absolument pléthorique. La liste des courses, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tout est dans la nuance et il y a parfois 6 préparations distinctes à faire. C'est ça la vraie cuisine à la française, même à la maison. C'est la subtilité.
La grande cuisine, la belle cuisine, la cuisine que je qualifie la haute couture de la cuisine, où ça nécessite un process non pas long et compliqué, mais un process qui nécessite des étapes, des ingrédients, et c'est la sophistication de la belle cuisine française que l'on peut s'attaquer justement pour les fêtes avec une bonne bouteille. Ça mérite, en tout cas, si vos invités, vos amis, votre famille le méritent, je pense que ça...
On espère que
ça,
oui.
Ça nécessite quelques heures, mais pour les amis dans un monde qui va si vite, peut-être qu'on peut s'arrêter quelques heures pour préparer, pour partager,
la cuisine,
pour échanger.
C'est du temps.
C'est un acte de civilité, c'est un acte de civilisation de partager, de se nourrir dans un monde où personne n'a plus le temps de s'arrêter, dans un monde surpressé, surstressé. S'arrêter pendant les fêtes, le temps de préparer pour les amis, c'est peut-être ça la vraie civilisation.
Je reviens à ma liste des courses. Qui a encore du rutabaga chez lui, Alain Ducasse?
Si vous faites un petit effort, vous pouvez en trouver. Voilà, j'en suis convaincu. Mais je pense que c'est ça demain, c'est d'aller rechercher les aspérités.
C'est ça votre message du livre, en fait, défendre les produits du terroir de saison, la production locale.
La spécificité, la diversité, la biodiversité, et les hommes et les femmes qui font. Je pense qu'il faut se rapprocher d'eux et dans ce monde globalisé, googlisé, mondialisé où tout se ressemble finalement, recevoir quelqu'un, c'est lui donner une attention différente pour lui faire découvrir quelque chose qu'il ne connaissait pas ou qu'il n'a pas l'habitude de consommer. Cela montre l'effort que vous avez fait pour le traiter.
Et donc ce livre vous donnera d'excellentes idées de recettes pour les fêtes si vous en avez besoin.
Mais
vous
allez... pas cher, 25 euros.
Et c'est une excellente idée de cadeau. Vous allez néanmoins nous donner quelques idées. Allez, va, on est à 2 jours de Noël, à 9 jours donc du réveillon du Nouvel An. Une entrée, un plat.
D'abord, il faut s'adresser aux hommes et aux femmes que l'on connaît, son boucher, son charcutier, son poissonnier, son marchand d'huile, son volailler.
Et qui font de la qualité de préférence.
Refaire travailler des hommes ou des femmes qui vous sont proches, dans votre commerce de proximité, dans votre marché qui n'est pas si loin finalement. Et d'abord, allez-y, si vous avez des enfants, allez-y avec vos enfants, ils découvriront un univers. Je ne sais pas, si vous trouvez une bonne volaille, il faut prendre une bonne volaille. Si vous trouvez un beau poisson, il faut prendre un beau poisson. Un homard vivant, il faut prendre un homard vivant. Des huîtres, du saumon, voilà, des racines. Terminer avec un dessert aux poires. Je pense qu'il ne faut pas se compliquer. Il faut surtout s'attacher à laisser du temps à la préparation qui sera faite en amont pour que vous puissiez profiter, vous, vous qui avez cuisiné, que vous soyez le papa, la maman, la tante, l'oncle, vous qui avez cuisiné, de vous laisser du temps à partager avec vos invités, que ce soit la famille ou des amis. Je pense que la cuisine, ça se prévoit, il faut prévoir en amont. C'est d'abord des bons produits, c'est d'abord ouvrir une bonne bouteille, une bouteille qui correspond bien.
Allez.
Une bouteille régionale, pourquoi pas, de vin de votre région.
À la volée, une entrée en plat, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'allez pas nous donner les recettes, c'est beaucoup trop long, mais qu'est-ce que vous auriez envie?
Moi, j'ai une passion... des souvenirs d'enfance, du saumon fumé qui était à l'époque sauvage, c'était du saumon de l'Adour. Il y en a guère plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-uns. Du saumon, une très belle volaille, rôtie, bien engraissée, un chapon des Landes, de volaille jaune des Landes, parfaitement rôtie, des racines. Si vous avez la chance de pouvoir accéder à quelques truffes noires, c'est parfait. Une belle bouteille de Bordeaux, un vin liquoreux pour terminer. Si c'est pour Noël, une bûche de Noël, au chocolat ou à la vanille. Un vin doux, un foie gras si vous êtes dans la Charlotte, parce que c'est la région où l'on élève des foie gras de manière traditionnelle, avec le temps nécessaire, avec du maïs bio pour les gaver, avec le temps nécessaire. Bien sûr qu'on peut toujours dire qu'il n'est pas bien de gaver les canards, mais ils sont gavés précautionneusement. Vous allez avoir un produit qui va faire fonctionner l'économie traditionnelle d'une région. Des hommes et des femmes qui sont ceux qui nourrissent la France, qui sont les paysans de notre pays. Et cela est parfait comme ça.
Alors, il va y avoir de toute évidence du monde dans vos divers et variés restaurants pendant les fêtes, Alain Ducasse. Pourquoi on va chez Alain Ducasse pendant les fêtes? Parce qu'on veut faire de ce moment-là un moment unique?
D'abord, j'ai de multiples propositions d'un prix d'accès, je dirais, plutôt bas, jusqu'à la très haute gastronomie.
Ça veut dire quoi, un prix d'accès plutôt bas?
Multiple et varié, de 50 euros à 1000 euros. Mm-hmm. Et tous les 50 ou 100 euros, je suis présent. Donc, c'est un choix de destination en fonction de vos moyens ou de vos envies. Parce qu'on peut avoir envie d'une cuisine de bistrot pour réveillonner ou d'être en famille. Mais dans mes restaurants, vous avez tous les choix. Donc, toujours autour de thèmes de produits dits de fête, de belles volailles, de belles huîtres, de saumon, de homard. Tout ça à des prix extrêmement variés en fonction de votre destination, de votre choix.
Quel est le produit ou le plat dont vous êtes le plus fier actuellement à votre carte?
Le plat le plus fier, ce sont des racines.
C'est
un plat modeste.
Ouais.
Au restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée. Des racines, celles que vous trouvez, cuisinées justement, assaisonnées pas trop, c'est-à-dire moins de gras, moins de sel. Certainement pas sucré, parce que la tendance modeuse de la cuisine en général et partout dans le monde, c'est d'y mettre du sucre. Je chasse le sucre, je chasse le sel, je chasse le gras pour me concentrer sur la préservation du goût et de la saveur originelle. Et en ce moment, j'ai une passion pour les amertumes, j'ai une passion pour l'amertume des racines des endives. Vous avez dans la racine d'endive, c'est pas facile à trouver parce que l'endive, on en récolte que ce qui pousse dessus, que vous connaissez tous, mais finalement, le plus intéressant, c'est ce qui pousse sous la terre et qu'on laisse sous la terre, dont nous avons décidé de le traiter. J'adore l'amertume, j'adore les acidités, j'adore les aspérités en général, j'adore que ça soit pas commun, j'adore que l'on réduise, j'adore la préservation du goût originel du produit que l'on traite.
Alors voilà, vous nous parlez de goût, moi je vais vous parler de chez nous. Le débat est lancinant ces années présentes. Est-ce qu'on peut manger bien chez soi, fait maison, hein, on est d'accord, pour pas trop cher? On dit toujours, il faut être riche comme Crésus pour bien manger
tout,
ici.
Pas du tout. Non, parce qu'il faut changer le modèle et la manière de consommer, il faut consommer moins, mais mieux, moins de protéines animales. Il vaut mieux manger une fois par semaine une jolie viande en petite quantité. Ça sera meilleur pour votre santé, meilleur pour votre portefeuille, meilleur pour la planète. Donc je pense qu'il faut manger davantage de protéines végétales, davantage de légumes, davantage de céréales. Vous savez, il y a de nombreux végétariens, je dis même de végétaliens, qui sont des sportifs de haut niveau. Donc cela veut dire que sans se priver complètement, de ne pas manger de la viande de la volaille. Je ne suis pas un gourou qui dit il ne faut pas manger de la viande de volaille. Je dis manger moins, manger mieux, moins de gras, moins de sel, moins de sucre, plus de protéines, plus de légumes. Respecter la saisonnalité, les périodes de pêche des poissons que vous mangez. J'étais hier à Londres, j'ai mangé un remarquable maquereau. Il a été acheté à 5 pounds le kilo, c'est-à-dire très peu. Ouais. Il était cuisiné entier sur son arête. Il était juste cuit, au parfait assaisonnement. Magnifique. Et s'il a le luxe de demain, c'était de manger des produits extrêmement simples, ce que j'appelle les poissons bleus. J'ai une passion pour les poissons bleus. Et très sincèrement, ça vaut largement un très beau et cher turbo.
Je suis bien d'accord avec vous. Merci beaucoup Alain Ducasse d'être venu dans RTL Soir nous faire saliver, mais aussi nous parler donc de votre livre Ducasse chez vous aux éditions du même nom. Alain Ducasse, une très belle idée de cadeau pour les fêtes. Merci beaucoup.
Merci à vous.
18h47, on a faim.
Moi aussi. À suivre les essentiels de RTL, puis Météoscope, puis RTL Monde.
18h49, les essentiels de l'info de RTL Soir, Florence Cohen.
Trois jours après l'attentat sur le marché de Noël de Berlin, le parquet antiterroriste de Paris se saisit de l'enquête car il y a une victime française. RTL vous le révélait à 18h, une jeune femme française a été légèrement blessée lundi soir. Le principal suspect, Anis Amri, est toujours en fuite, mais malgré les questions sur l'avancée de l'enquête, Angela Merkel, la chancelière allemande, a tenu à saluer l'attitude du peuple allemand qui ne cède pas à la peur.
J'ai confiance dans nos capacités à vraiment surmonter l'épreuve dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, car nous avons des collaboratrices et des collaborateurs professionnels qui travaillent avec toute leur force à résoudre les problèmes posés par ces événements. Et je dois dire aussi qu'au cours de ces derniers jours, j'ai été très fier de constater avec quel calme la plus grande partie de la population a réagi.
C'est l'image qui marquera son début de campagne. L'ancien Premier ministre Manuel Valls enfariné cet après-midi à Strasbourg par un militant qui n'a pas oublié le 49-3.
49-3. C'était la farine sans gluten et donc du coup j'apprécie l'attention. C'est les joies de la campagne, n'en faites pas des tonnes sinon vous aussi vous risquez d'en recevoir, donc il n'y a aucun problème.
La droite veut revenir sur les 35 heures, mais les Français font déjà plus de 39 heures par semaine en moyenne, selon les données du ministère du Travail, en raison notamment des heures supplémentaires. Conclusion pour Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière et invité de RTL Soir. Il n'y a pas de raison de revenir sur les 35 heures.
Ça montre bien en tout cas que les 35 heures ne sont pas en soi un problème, que ça n'empêche pas de travailler plus quand c'est nécessaire, seulement il faut payer des heures supplémentaires dans ce cas-là. Et ça montre bien que ceux qui mettent en cause la durée légale du travail, ils sont dans l'idéologie plus que dans le réel.
La compagnie Iran Air confirme sa commande de 100 avions Airbus pour 20 milliards de dollars au prix catalogue. Mais Téhéran ne prendra pas d'A380. L'aéroport de la capitale iranienne n'est pas aménagé pour le très gros porteur. Le casque obligatoire à vélo pour les enfants de moins de 12 ans dès le printemps prochain. Sans ça, ce sont les adultes qui risqueront l'amende, 135 euros.
RTL Soir.
Patricia Charbonnier, de la grisaille pour demain sur une bonne partie du pays.
Ah oui, encore une fin de semaine sous un ciel très très gris. On a une perturbation qui a donné pas mal de pluie, surtout ce matin sur la moitié nord. Elle s'est décalée vers l'est et le sud. Elle donne encore quelques pluies ce soir entre le nord-est, le massif central et le sud-ouest du pays. Elle va perdre de son activité demain, mais elle va laisser beaucoup d'humidité derrière elle. On aura encore quelques pluies, mais faibles et éparses entre l'Aquitaine et le massif central et partout ailleurs. On va retrouver un ciel très gris avec des nuages bas et des brouillards, quelques éclaircies en début de journée sur les côtes de la Manche, mais très très vite le ciel va se couvrir dans l'après-midi et là c'est une nouvelle perturbation qui abordera la pointe bretonne avec un petit peu de pluie. À l'opposé, du côté de la Méditerranée et du côté des Pyrénées, là c'est vraiment une très très belle journée ensoleillée qui s'annonce avec des températures comprises entre moins 1 et 10 degrés demain matin, moins 1 degré à Alençon, 2 à Lille, 3 à Paris, 10 degrés à Perpignan et des températures comprises entre 5 et 18 dans l'après-midi. Ça remonte un petit peu, 5 degrés à Mulhouse, 6 à Lille, 7 à Paris, 10 degrés à Toulouse, 13 à Brest et 18 à Ajaccio.
Et pour ce week-end de Noël, Patricia, de la douceur et de la grisaille.
Jusqu'à lundi, un temps qui va rester très très gris avec deux perturbations qui vont s'enchaîner, mais comme elles rentrent dans un champ de pression très élevé, elles seront vraiment de très faible activité. Mais alors ce sera très gris sur une bonne partie du pays, toujours très ensoleillé du côté de la Méditerranée et du côté des Pyrénées. Les températures qui grimpent et on va repasser au-dessus des normales de saison tout au long du week-end. Donc même type de temps jusqu'à lundi. Ensuite, on rechange de scénario météo, on retrouve l'anticyclone avec un temps qui sera sans doute un petit peu plus ensoleillé.
Eh ben voilà, merci Patricia.
Depuis 40 ans, AJP propose des solutions pour chaque étape de la vie. Votre retraite se prépare maintenant. Rejoignez-nous sur AJP.com. AJP, partenaire d'AXA.
18h53, c'est l'heure du RTL Monde, Florence Cohen.
Absolument, et on va directement au Japon. Ce sera la première visite d'un Premier ministre japonais à Hawaï, 75 ans après Pearl Harbor, 75 ans après l'attaque de l'aéronavale japonaise contre la base américaine qui a provoqué l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Shinzo Abe sera donc à Pearl Harbor le week-end prochain, et forcément, ça ne laisse pas indifférent au Japon. Joël Legendre, vous êtes le correspondant de RTL à Tokyo.
Il est 7h48 au matin. Ce 7 décembre 1941, une flottille aérienne japonaise embarquée sur 6 porte-avions depuis 12 jours depuis une base secrète attaque par surprise le port américain de Pearl Harbor à Hawaï. C'est la plus grande base navale américaine du Pacifique située à 6500 km de Tokyo. Un jeune pilote de 25 ans alors, Kaname Harada, participe à l'attaque.
Vous allez voir,
je savais que j'allais éventuellement me battre avec des Américains et mourir peut-être. Mon état d'esprit alors, c'était comme une sorte de rite, un passage vers le monde réel des hommes. J'étais un combattant, un guerrier, je me sentais prêt.
24 heures après, dans les rues de Tokyo, les Japonais sont éberlués car l'attaque était restée secrète, car signée de l'empereur Hirohito lui-même. La presse japonaise publie des éditions spéciales. Il y a des parades aux lampions dans la capitale de l'Empire du Soleil Levant, se souvient Tomoka Sai.
Cette victoire à Hawaï et puis les autres nous ont donné un sentiment de fierté. J'ai alors décidé de m'engager comme pilote et de me battre pour la gloire. J'étais très excité.
7 décembre 1941, une journée d'infamie, dit au Congrès le président Roosevelt, qui ordonne alors de bombarder le Japon. Ainsi commence la guerre du Pacifique. Elle terminera le 14 août 45 après la bombe d'Hiroshima.
Allez, nous voilà maintenant au Maroc à la rencontre de Fadela El Ghadi. C'est une styliste renommée qui a travaillé avec Yves Saint Laurent. Elle a créé l'école des arts et de la broderie à Salé, sa ville natale, commune populaire voisine de la capitale Rabat. Gratuite, destinée aux filles et aux garçons de milieux défavorisés, cet établissement se veut un lieu d'apprentissage d'un métier, mais aussi le moyen de transmettre et de préserver le savoir-faire marocain. Visite guidée avec Fred Rousseau.
C'est une maison élégante entre inspiration moderne et tradition marocaine, à l'image des vêtements créés par Fadela El Ghadi.
C'est là où ils apprennent tous les jours la broderie.
À l'étage, une salle baignée de lumière et de musique où une douzaine d'enfants se concentrent, aiguilles à la main. La styliste a choisi Salé, sa ville natale, connue pour sa broderie, mais dont la tradition se perd.
J'ai constaté qu'il y a une disparition dans tout ce qui est broderie. Et comme je travaille beaucoup avec la broderie, donc je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose.
Faire quelque chose aussi pour ces enfants de milieux défavorisés.
On fait le point d'arrêt ? Radija,
Radija, 10 ans, à qui Sandra apprend un nouveau point, n'était jamais allée à l'école. Désormais, elle sait ce qu'elle veut faire plus tard.
La broderie.
Najib Mtoul, le directeur de l'école, précise que les élèves bénéficient aussi de cours d'arabe, de français, de maths ou encore de dessin. À 15 ans, Marwan aime enfin l'école.
Là, il est en train d'apprendre mieux qu'à l'école. On leur consacre plus de temps et il est content d'être là.
L'école est gratuite. Elle offre aussi transport, douche, petit déjeuner et déjeuner. Le tout financé par Fadela El Ghadi. Voir ses enfants apprendre un si beau métier, ça n'a pas de prix, dit la créatrice, qui espère quand même que des mécènes rejoignent le projet.
Reportage de Fred Rousseau au Maroc pour RTL. Ça donnerait presque des idées pour la ville de Palmyre en Syrie et les bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, détruits par les islamistes. Le portrait de ce RTL Monde est celui d'un bâtisseur un peu particulier. Il s'appelle Ali Ribiche, il est libyen et il a monté une brigade de volontaires pour protéger une ville romaine datant du 7e siècle avant Jésus-Christ, un site détruit par la guerre civile qui ravage son pays depuis 5 ans, Béatrice Adjadj.
Alors avec leur kalachnikov à la main, Ali Ribiche et sa brigade de volontaires en sweatshirt ne feraient certainement pas peur à une brigade de djihadistes déterminés. Mais peut-être arrive-t-il au moins à dissuader les pillards de vandaliser Leptis Magna, une des plus belles villes de l'Empire romain, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Ali Ribiche était un modeste fonctionnaire de la compagnie d'électricité libyenne. Âgé d'une soixantaine d'années, il a toujours vécu là, tranquille, en famille. Mais depuis 2011, après la chute de Kadhafi, la Libye est devenue la proie des milices armées. Et Ali Ribiche n'a pas voulu que ces superbes monuments antiques soient détruits comme tant d'autres. Alors, il a constitué cette brigade de jeunes volontaires, 70 environ, qui patrouille jour et nuit dans la citadelle.
Et alors, la ville de Leptis Magna a encore bien des trésors qui méritent d'être sauvegardés.
Mais imaginez, projetez-vous, quand vous grimpez en haut des marches de l'amphithéâtre romain de 15 000 places, vous êtes face à la Méditerranée. Vous poursuivez la balade vers le temple et la basilique byzantine. Passez par les thermes avec le Frigidarium, la chambre froide où se trouvent des mosaïques de toute beauté que je suis sûre vous avez vues dans vos livres d'histoire. Puis vous filez au forum en passant par l'hippodrome, le tout avec arc de triomphe d'une vingtaine de mètres de haut et colonnes de pierre, des colonnes d'ailleurs, qui pour certaines d'entre elles ont été volées au XVIe siècle. Pourquoi ? Pour construire le grand hôtel de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Elle se trouve maintenant au Louvre. Comme quoi le pillage des chefs-d'œuvre a toujours existé. Mais aujourd'hui, à l'Iribi, je veux préserver Leptis Magna parce qu'il n'y a plus en Libye d'État capable de le faire.
C'est très beau en tout cas comme intention. Merci pour ce portrait, Béatrice Adjadj, dans RTL Monde.
Il est 19h. RTL Soir, Florence Cohen.
Et pour ce journal, Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Florence, bonsoir à tous.
RTL vous le révélait à 18h, il y a une Française parmi les blessés de l'attentat de Berlin.
Oui, le parquet antiterroriste français va être saisi et alors que l'enquête piétine, Angela Merkel temporise. La 380 toujours maillon faible d'Airbus, l'avionneur européen a enregistré une nouvelle commande mais toujours pas de très gros porteur. 20 000 euros en petite coupure, abandonné sur le bord de la route, un trésor tombé du camion en Haute-Loire. Enfin, ce sera l'une des stars du réveillon. Nous rendrons en visite au Chapon de Bresse dans son habitat naturel.
Après ce journal, dans 10 minutes, l'actualité sort de la bouche des enfants. Le casque à vélo va être obligatoire justement pour les enfants. On leur demandera ce qu'ils en pensent. Et puis à 19h15, on refera le monde avec les polémistes.
RTL Soir.
Et d'abord, donc, cette étonnante découverte en Haute-Loire, des liasses de billets sur le bord de la route.
Oui, ce sont des agents du conseil départemental qui les ont trouvés hier. Deux sacs et une valise qui contenaient au total 20 000 euros, Thomas Proutot.
Oui, les quatre employés du conseil départemental travaillaient sur le bord de la RD 46 entre Retournac et Beauzac hier matin. C'est là qu'ils tombent sur ce magot, deux grosses liasses de billets dans des sachets en plastique montant 4 000 et 6 000 euros. Et ce n'est pas tout, ils découvrent un peu plus loin une valise frappée d'un logo mais impossible à ouvrir. Les employés sont honnêtes, ils décident de se rendre immédiatement chez les gendarmes. Les militaires reconnaissent alors le logo d'une société de transport de fonds. Ils contactent le responsable. C'est bien l'argent que transportait un de ces fourgons. Le scénario n'est pas banal. Après vérification, le gérant explique qu'une des portes était mal fermée et que l'argent a été éjecté du fourgon. Une fois ouverte, la valise se révèle contenir elle aussi 10 000 euros. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est si d'autres sacs de billets ont été égarés dans cette mésaventure.
Le récit de Thomas Proutot pour RTL. Dans l'actualité également ce soir, la justice française ouvre une enquête après l'attentat du marché de Noël de Berlin.
Oui, RTL vous révélait l'information dès 18h. Une jeune française fait partie des blessés. C'est pourquoi le parquet antiterroriste va être saisi. Trois jours après l'attaque, le principal suspect est toujours dans la nature, un demandeur d'asile tunisien de 24 ans. Ses empreintes digitales ont été retrouvées dans le camion qui a foncé dans la foule lundi soir, faisant 12 morts et des dizaines de blessés. La polémique gronde en Allemagne. Comment le terroriste a-t-il pu échapper aux enquêteurs ? Malgré des dysfonctionnements évidents, Angela Merkel a tenté de rassurer l'opinion. Aujourd'hui, la chancelière se dit très fière de la réaction des Allemands après le drame.
J'ai confiance dans nos capacités à vraiment surmonter l'épreuve dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, car nous avons des collaboratrices et des collaborateurs professionnels qui travaillent avec toutes leurs forces à résoudre les problèmes posés par ces événements. Et je dois dire aussi qu'au cours de ces derniers jours, j'ai été très fière de constater avec quel calme la plus grande partie de la population a réagi.
La chancelière allemande Angela Merkel avec Blandine Milsan. Et dans ce contexte, et malgré le deuil, le marché de Noël de Berlin a rouvert ce matin.
Un peu plus de 48 heures après l'attentat qui a fait 12 morts et des dizaines de blessés, les passants et les touristes reviennent petit à petit sur les lieux du drame. Samuel Goschmidt, vous êtes sur place pour RTL. L'ambiance était forcément très particulière aujourd'hui.
Oui, sans musique, les commerçants ont choisi de l'éteindre. Certains d'ailleurs ont beaucoup de mal à reprendre le travail. Jusqu'à cette fin d'après-midi, on a aussi vu encore les camions installé des barrages en béton. Et les touristes y vont sur la pointe des pieds. Il y avait des Français parmi eux.
On voit des gros blocs de béton qui viennent d'être déposés aujourd'hui, de manière à ce que les gens puissent fréquenter le marché Noël à nouveau et dans un sentiment de paix et de sécurité.
On sent qu'il y a des recueillements, les Berlinois sont assez touchés. Mais après, ça ne change pas grand-chose dans la ville, il n'y a pas beaucoup de changements.
On est allé sur Unter den Linden, sur la porte de Brandebourg, on a trouvé un calme. On sent qu'il y a une certaine présence policière quand même qui est là, mais ça demeure très discret. La ville est apaisée.
Une ambiance et des pratiques qui surprennent d'ailleurs les visiteurs d'Outre-Rhin.
Beaucoup moins de mesures de sécurité qu'à Paris. On est très surpris par ça. Vous rentrez dans les musées, il n'y a aucun contrôle. Il ne s'agit pas du tout de donner des leçons. Nous sommes surpris par la différence entre les deux capitales.
Et rien que la présence de policiers patrouillant avec des armes automatiques n'est pas dans les habitudes allemandes.
Samuel Goldschmidt, envoyé spécial de RTL à Berlin. Il est 19h05 sur RTL. Dans un instant, encore une grosse commande pour Airbus, mais toujours pas d'A380.
RTL Soir avec Florence Cohen
et Alexandre de Saint-Aignan pour ce journal de 19h. C'est une nouvelle déception pour le programme A380 d'Airbus.
Oui, l'Iran a confirmé sa commande aujourd'hui auprès de l'avionneur, une centaine d'appareils pour un montant de près de 20 milliards de dollars. Alors c'est une bonne nouvelle, mais aucun A380, le fleuron européen. Forcément, Pierre Julien, pour Airbus, c'est la soupe à la grimace.
Oui, dans la musette, un 100 appareils des familles 320, 330, 350, c'est toujours bon à prendre car ça représente en gros 8 ans de travail. Mais voilà, Iranair n'a pas craqué pour le très gros porteur. Airbus, qui espérait en placer 12, s'est vu répondre que l'aéroport de Téhéran n'était pas équipé pour accueillir les 80 mètres d'envergure et les 575 tonnes du géant des airs. Le constructeur européen tente de se convaincre que ce n'est que partie remise dans l'optique d'ici quelques années d'un nouveau terminal adapté. Cependant, il faut bien remarquer que l'A380 connaît un sérieux trou d'air. La preuve, en juillet dernier au salon de Farnborough, où la direction d'Airbus a annoncé la réduction de sa production qui passera en 2018 à un seul exemplaire par mois. Aujourd'hui, on en est à 2,5. Le double pont avait atteint juste le seuil de rentabilité. Maintenant, le programme lancé en 2000 repasse dans le rouge. Au siège de Toulouse, on ne veut pourtant pas baisser les bras avec l'espoir de vendre encore quelques dizaines de super Airbus plus performants car remotorisés, principalement aux clients de toujours, la célèbre compagnie Emirates, qui en possède 88 et attend 54 supplémentaires déjà commandés.
Merci Pierre-Julien. C'est l'un des arguments forts de la droite pour 2017, la suppression des 35 heures.
Oui, et pourtant, selon un rapport du ministère du Travail, les Français travaillent déjà en moyenne plus de 39 heures par semaine. Il ne serait donc pas forcément nécessaire de modifier la durée officielle du temps de travail. Pourtant, l'équipe de François Fillon n'en démord pas. C'est une mesure indispensable pour son porte-parole Thierry Solaire.
François Fillon, qu'est-ce qu'il constate ? Il constate qu'il faut qu'on travaille tous un tout petit peu plus parce qu'on a un système économique aujourd'hui qui ne fonctionne pas et on a un chômage de masse. Vous voyez bien l'immense décalage aujourd'hui des situations entre un travailleur indépendant et puis le salarié. Il y a des disparités absolument considérables de réalité professionnelle et de temps de travail. Il y a des gens qui travaillent 70 à 80 heures par semaine. Et puis vous avez des fonctionnaires qui travaillent beaucoup plus que 35 heures, mais qui ne sont jamais payés de leurs heures supplémentaires. Et puis vous avez, notamment dans la fonction publique territoriale, beaucoup de collectivités où c'est les 32 heures qui sont encore la réalité du terrain et du quotidien. Les 35 heures, ça a désorganisé les choses, ça n'est pas une solution qui fonctionne. On a tous besoin de travailler un tout petit peu plus pour faire que le pire décolle. Je crois que c'est un beau projet collectif qu'on peut avoir.
Thierry Solaire avec Caroline N pour RTL. Du côté des socialistes, l'après-midi a été mouvementé pour Manuel Valls. L'ancien Premier ministre s'est fait enfariner alors qu'il était en visite à Strasbourg dans le cadre de sa campagne pour la primaire de la gauche. 49-3, on n'oublie pas, aurait lancé l'enfarineur. Manuel Valls aurait réagi plutôt calmement, parlant même d'un bon présage.
Eh ben, la cloche de l'église du village de Boissette en Seine-et-Marne ne sonnera plus la nuit.
Ça faisait 10 ans qu'un couple tentait de la faire taire pour préserver son sommeil. Un combat judiciaire mené contre tous les autres habitants de la commune. Du coup, la cloche était totalement muette depuis 2 ans. Seul ce couple semblait dérangé par la cloche qui est marquée chaque demi-heure. Il a fini par avoir gain de cause au prix d'une guerre sans merci. Vincent Serrano, elle va de nouveau sonner, mais seulement le jour.
Oui, rendez-vous compte, Boissette, c'est 440 habitants et seuls 3 voulaient la faire taire la nuit. Le couple de plaignants et une amie voisine. Floriane habite elle aussi au pied de ce clocher. Elle s'impatiente de l'écouter à nouveau sonner.
Bah parce que ça fait partie des bruits du village. Je suis arrivée là il y a 32 ans, l'église sonnait. Tout le monde voulait garder ses cloches du village. Une personne peut arriver et dire « on n'en veut pas ». Quand ils ont acheté la maison, les cloches sonnaient. C'est comme d'acheter une maison près d'un train. Si on n'a pas envie d'entendre le train, il faut l'acheter ailleurs.
Par souci d'apaisement, Bernard Fabre, le maire de la ville, a coupé court à cette guerre de clochers. Il sonnera le jour, mais pas la nuit.
Ah, ils adorent cette cloche. Ça fait partie de leur quotidien, ça fait partie de leur rythme de vie. Et tout ça berce notre musique quotidienne. Il n'y a pas de guerre, parce qu'il n'y a pas de victoire non plus. Il y a simplement une normalisation, un attachement sentimental à la chose, à nos sonneries, voilà. Et on aime bien ça, on aime bien ces valeurs essentielles.
Le couple réfractaire pense maintenant à déménager, car si la cloche ne sonne plus la nuit, les tensions qu'elle a soulevées se font toujours entendre et continuent de gâcher leur sommeil.
Merci, reportage de Vincent Serrano. J-2 avant le repas du réveillon de Noël, l'occasion de manger du foie gras, du saumon, mais aussi du chapon, et notamment le fameux chapon de Bresse.
Oui, le chapon ou la poularde des volailles élevées traditionnellement dans une partie de l'Ain et de la Saône-et-Loire. 170 producteurs y travaillent toute l'année. Frédéric Perruche, vous en avez rencontré l'un d'entre eux.
Chaque année, Jean-Michel Cibel produit 4000 volailles de Bresse, poulardes et autres chapons, des bêtes qui ont la spécificité d'être élevées en plein air pendant de longs mois, le prix de l'excellence.
Les volailles rentrent dans leur poulailler pour dormir, mais la journée, ils sont dehors, en totale liberté. C'est 10 mètres carrés minimum par volaille. C'est une grande aire, c'est pas le Club Med, mais pas loin. Et ils ont tout loisir de grandir et de grandir doucement.
Le grand air, couplé à une nourriture naturelle, permet d'élever des champions, des volailles aux qualités gustatives exceptionnelles, servies chez les plus grands restaurateurs, Georges Blanc ou Paul Bocuse.
C'est un mélange de tout, c'est tendre, c'est ferme à la fois, ça a une saveur différente, qui aiguise les palais. Voilà. En volaille, c'est le top. Pour moi, c'est le summum, c'est la Formule 1 de la volaille. Voilà.
Mais la fierté de Jean-Michel Cibel, c'est de savoir que ces volailles d'exception seront dégustées en famille pour Noël.
Notre plus grande fierté, c'est de savoir que le soir de Noël, le soir du réveillon, le jour de Noël, il y a des familles entières qui vont déguster nos produits, qui vont se régaler avec ça et qui vont passer un beau moment avec ça. Donc ça n'a pas de prix, ça. On est fiers de ça, nous.
Autre fierté de l'éleveur, il a remporté cette année 2 des 4 plus prestigieux concours de volailles, les Glorieuses de Bresse.
Le reportage de Frédéric Perruche pour RTL. 50 plus pour Hugo Lloris. À Tottenham, le gardien et capitaine de l'équipe de France de football a prolongé aujourd'hui son contrat avec le club anglais jusqu'en 2022. Hugo Lloris est arrivé chez les Spurs en 2012 après avoir quitté l'Olympique lyonnais. Un mot de rugby en top 14, match avancé de la 14e journée ce soir, Grenoble-Toulouse, avec en jeu pour les Grenoblois le maintien, alors qu'en face, une victoire permettra aux Toulousains de réintégrer les 6 premiers du classement en vue de la qualification pour la Coupe d'Europe.
Merci, c'était le journal d'Alexandre de Saint-Aignan.
Fabriqués en France, les couettes et oreillers Cola Normand vous apportent une récupération optimale. Couettes et oreillers Cola Normand, chaque matin, partez gagnant.
Patricia Charbonnier, la météo pour demain, c'est beaucoup de gris.
Oui, c'est très très gris et c'est très humide. On a une perturbation qui finira de s'évacuer dans la nuit. Elle perdra de son activité. On aura encore quelques pluies, mais faibles et localisées entre le Massif central et le Sud-Ouest. Mais comme on aura beaucoup d'humidité, on aura toujours ces fameux nuages bas. Donc une ambiance vraiment très très grise. Et puis une nouvelle perturbation qui abordera dans l'après-midi la pointe bretonne avec des pluies faibles. Du côté de la Méditerranée et du côté des Pyrénées, là ce sera vraiment un ciel parfaitement dégagé avec du soleil pour toute la journée. Des températures comprises entre moins 1 et 10 degrés demain matin. Moins 1 degré à Alençon, 2 degrés à Lille, 3 à Paris, 10 degrés à Perpignan. Elles remontent un petit peu ces températures dans l'après-midi. 5 degrés à Mulhouse, 6 à Lille, 7 à Paris. 10 degrés à Toulouse, 13 à Brest, 14 à Marseille, 18 degrés à Ajaccio. Et c'est la tendance pour le week-end de Noël. C'est de la douceur. On sera au-dessus des normales de saison, mais avec beaucoup de grisailles et un petit peu de pluie sur la moitié nord. Toujours du grand soleil du côté de la Méditerranée, du côté des Pyrénées.
Moi, en tout cas, j'ai retenu votre promesse pour le début de la semaine prochaine. On retourne à du beau.
Ouais. A priori, oui.
Merci pour le a priori, Patricia.
Vous écoutez RTL.